Je suis partie en fait de la Normandie, ça c'est pour faire une transition avec Cerisy, ou plus exactement d'un auteur que tout le monde connaît, qui est Flaubert, et du dictionnaire des idées reçues de Flaubert, selon lequel un orientaliste serait un homme qui a beaucoup voyagé. Et Tintin, assurément, a la qualité requise pour être un orientaliste. Parmi ses fort nombreux voyages, Tintin a d'ailleurs arpenté l'Égypte, l'Arabie et le Maroc, faisant de ces contrées les trois pôles combinatoires de l'Orient arabe d'Hergé. Peut-être Tintin a-t-il ressenti ce que Huysmans a qualifié de nostalgie des au-delà, un besoin qui est en somme la poésie même, le conduisant à délaisser son monde originel pour, je cite, « la solennité hiératique, la férocité brutale et les rêves efféminés et ambigus du vieil Orient ». Alors pour mémoire, c'est aussi d'ailleurs également en Orient, et très précisément à Ouad Ezzedah, au Khemed, on va l'appeler le Khemed, hein, parce que logiquement, la transcription KH en français, ça correspond au Kha en arabe. Ce n'est pas parce qu'un pays n'existe pas qu'on ne doit pas prononcer son nom correctement. Donc, c'est donc au Khemed que Tintin, adepte inconditionnel du déguisement, comme vous le savez certainement, va avoir l'opportunité de se travestir en femme voilée avec son complice ad hoc. Je crois que c'est la seule fois. Il y a une autre fois, mais un peu trouble, où Tintin a l'occasion de s'habiller en femme. Aussi, mon propos va être fondé sur l'exploration de quelques vignettes collectées dans les aventures du célèbre Tintin, étrange petit personnage intrinsèquement ethnocentrique et au demeurant un grand héros universel. Donc ces péripéties de héros reporters peuvent se décrypter comme une sorte d'exégèse parodique du rapport au monde des Européens, mais surtout me semble modeler et révéler les dispositifs d'une géographie. Et c'est cette interprétation, bien sûr, que je souhaite vous proposer aujourd'hui. Donc depuis ce champ, je vais commenter un corpus restreint à 6 extraits ou séquences qui sont bien sûr issus des périples de Tintin en l'Orient tel que façonné par Hergé. Donc l'Égypte, l'Arabie et le Maroc forment le triptyque de cet Orient recomposé, de ce que Édouard Saïd aurait pu appeler un Orient de composition. Et c'est en premier lieu en Égypte, avec les cigares du Pharaon, 1934, que Tintin va inaugurer ses aventures orientales, et ce, de manière fortuite. Dans ce même album, Tintin découvre également l'Arabie, et il se rend ensuite au Maroc, dans le Crabe aux pinces d'or, 1941, même si les lieux de référence y ont des appellations imaginaires, hors le Maroc lui-même. Enfin, Tintin retournera en Arabie, donc l'émirat du Khemed, dans Tintin au pays de l'or noir, 1950, puis dans Coq en stock, 1958. Alors peut-être aussi une petite précision sur ce que je vais entendre par Orient ici. Donc là, c'est en croisant bien sûr Édouard Saïd à l'évidence, mais aussi des travaux de Jean-Claude Vatin, ou encore de Jean-Claude Bercher, qui a beaucoup travaillé sur la littérature produite sur l'Orient, où, comme vous le savez, l'Orient désigne au XIXe siècle un territoire, on ne va pas revenir sur ses dimensions ou ses configurations, mais qui est un objet de fascination. Et le voyage en Orient représente une sorte de rite de passage par lequel on accède à une double vérité, celle de la connaissance et celle du désir. Donc c'est un périple qui est symbolique, et c'est ce que nous dit Jean-Claude Bercher, qui va produire une véritable idéologie de la colonisation douce, et il dit que c'est en somme un acte qui est éminemment littéraire. Alors la question, c'est bien sûr à quelle géographie Tintin nous convie-t-il ? On peut dire que Hergé est véritablement, quoi qu'on en pense bien sûr, un virtuose dans sa fabrique d'un imaginaire géographique oriental, c'est-à-dire de l'univers dans lequel Tintin va être amené à évoluer. Alors on pourrait dire dès à présent que peut-être Tintin nous propose un soupçon de géographie culturelle, si on en croit le premier point de la grille que nous a proposé hier Paul Claval, notamment ce premier point qui nous disait que la géographie culturelle, ce serait une recherche qui se construirait dans un climat d'incertitude. Donc, en explorant les coulisses locales de la fabrique exogène de l'Orient, Hergé construit à l'évidence quelque chose qui relève d'une démonstration. Donc là, je vous propose de prendre l'image pleine page, qui est celle-ci, et qui est donc extraite du Crabe aux pinces d'or, L'action se situe dans la médina de Bagar, grand port sur la côte marocaine. Donc là, nous voyons que notre héros est lancé dans une course qui va le faire très bientôt jaillir hors du cadre folklorique où elle s'inscrit, qui est un large tableau combinant des éléments architecturaux structurants qui en sont les montants et des compositions détaillées qui en trament le fond. On se doute par ailleurs du sort à venir du panier d'orange qui est situé en aval de la trajectoire de Haddock. Là, nous voyons que Tintin crée un halo de vide immédiat sur sa lancée et que, s'écartant et le regardant médusé, les autochtones, sempiternels figurant, sont aussi les nécessaires spectateurs de l'action, saisis par un envoûtement qui les statufie en retrait, confinés aux bordures. Ce sont des figures paradoxalement molles et pétrifiées, engluées dans leur univers. Et ne sont-ils pas, au-delà de leur inconsistance même, un peu pleutres, eux qui jamais ne s'interposent, qui esquivent l'action et la prise de risque? L'aventure, manifestement, n'est pas pour eux. Elle n'est peut-être pas dans leur tempérament. Quant à Tintin, cette sorte de sillage inversé qui le précède, ce mouvement qui lui appartient en propre, lui est indispensable pour être central, placé sous les feux de la rampe, pour être tout simplement Tintin. Donc décor, personnages et accessoires dressent un dispositif documentaire qui forme comme un espace bouffant autour de son personnage. Ici, la ligne mitoyenne est affinée à portions congrues. Le liseré des bords acérés du sillage est généré par la traversée centrale du héros. Place, pousse, je passe. On a là un passant en mode rapide, prioritaire, sûr de la considération due à son personnage et à ses objectifs. Tintin crée une sorte de happening surréaliste en un décor ethnico-rigide. Donc il fabrique in situ un mirage. Et lui, bien sûr, il s'extirpera de cette image, indemne qui plus est, mais celle-ci, elle sera désormais consignée comme paysage cadre de référence et elle pourra être réactivée. C'est-à-dire que la scène de la Médina pourra être rejouée sous une forme ou une autre. Et là, je pense que Tintin n'est-il pas, enfin, je me pose la question, Tintin n'est-il pas dans la Médina de Bagar, dans une sorte de préfiguration de l'aventure du jeu challenge, qui est quelque chose qui existe et qui se pratique aujourd'hui, donc le jeu challenge de la chasse au trésor à Marrakech. Là, je pense que le parallèle est tout à fait saisissant. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu ou une expérience, ça s'appelle la chasse au trésor ou ça s'appelle encore le rallye, mais c'est quelque chose qui est proposé par pléthore de voyagistes et comités d'entreprise, notamment dans le cadre du tourisme incentif, qui est le tourisme de récompense des entreprises. Donc là, vous avez des énigmes, des équipes qui sont lâchées sur le territoire de la Médina, qui devient un terrain d'aventure, où on expérimente toutes sortes de choses dans un registre multisensoriel, avec des épreuves, des déguisements, des chèches, des récompenses, etc. Alors, par ailleurs, inlassablement, Tintin va suivre sa feuille de route, son aventure et ses expériences. Je vous propose de le suivre vers une autre scène, une autre entrée en forme d'irruption et une autre interruption de son fait d'un préalable en cours. Après maintes péripéties, Tintin débarque sur les côtes d'Arabie, ça se passe dans les cigares du pharaon, et il va être capturé et amené auprès d'un cheikh, comme on nous l'écrit, cheikh préalablement mal intentionné à son égard, lequel changera radicalement d'attitude envers notre héros en apprenant l'identité de son captif dont il est un fervent lecteur des aventures. Alors à ce propos, dans le chapitre protocole fictif des 6 promenades dans les bois du roman et d'ailleurs de Umberto Eco, celui-ci suppose que quand les personnages fictifs peuvent émigrer de texte en texte, cela signifie qu'ils ont acquis un droit de citoyenneté dans le monde réel, s'affranchissant du récit qui les a créés. Donc Tintin, sauvé par cet intertexte, poursuit son périple dans le désert et là, il va voir se découper la forme d'une ville qui s'avérera n'être qu'un décor de cinéma. Il va voler au secours d'une femme fouettée par un arabe avant de s'apercevoir qu'il s'agit en réalité d'une scène de tournage de film dont le titre « Haine d'arabe » est de fait éloquent. Après avoir réalisé sa bévue et continué sa route, Tintin croit distinguer une oasis qui est en fait l'image produite par un mirage. Enfin, apparaît une silhouette de cité dont il craint, à première vue et à juste titre, au regard de ses déconvenues précédentes, qu'elle ne soit elle aussi, a posteriori, le panorama d'une illusion. Mais celle-ci est simplement conforme à l'imaginaire d'une ville orientale et par conséquent réelle. Et l'histoire engagée peut se poursuivre. Je rappelle également qu'aux antipodes de cet Orient d'Arabie qu'est le Khemed, le mirage sévit également dans le Sahara occidental, où par exemple Haddock, épuisé et assoiffé, va se jeter sur Tintin, le prenant pour une bouteille de champagne. Alors cette scène, elle est connue et célèbre puisqu'elle a été aussi interprétée à l'aune de la psychanalyse. Donc ce que l'on peut voir, bien sûr, c'est que l'Orient est un cadre posé où vont s'insérer alternativement les images qui le trament, le composent, le façonnent, l'attestent et le stabilisent en tant que tel. Fiction et parodie, l'Orient n'est jamais absolument réel ni tout à fait improbable, malgré ou du fait des attendus précis et des précisions attendues. Donc l'Orient ne s'appartient pas au point d'être in situ son propre pastiche. Là, ici, peu importe, tout est plausible, mais presque tout peut s'avérer factice au hasard de probables composites. Ici, une femme blonde, à terre, à la merci et au pied d'un lâche et cruel arabe, la fouettant avec fougue, vous avez l'image bien sûr, donc la fouettant avec fougue, sous le regard sardonico-lubrique d'un complice en délectation. Ceci est une scène extrême de fantasme absolu. Et pourtant, même le sagace Tintin y croit et se laisse prendre au piège, pourtant très très grossier à tous les sens du terme. Et que dire alors des futurs spectateurs de cette scène de film vénéneuse, amenée à être diffusée partout dans le monde et à en alimenter l'imaginaire côté pervers. L'intervention de Tintin, elle s'agrippe bien sûr et elle se superpose à cette scène préalable dont elle se nourrit et qui la justifie. Mais la prise de conscience de la fictivité de la première scène ne suffit pas pour autant à la neutraliser totalement, à l'abolir définitivement, à désamorcer la représentation. N'en émanera-t-il pas de cette scène des effluves hybrides ou les relents d'une possible rumeur? Je crois que son impact, certes, perdurera. Alors notons que ce tableau est incontestablement sexuellement connoté et qu'il s'agit là de la plus, sinon la seule scène explicitement suggestive. Je sais que explicitement et suggestive, ça ne va pas forcément ensemble, mais il me semble que là, oui. Bref, la plus érotique de toutes les scènes des aventures de Tintin. Mais encore une fois, c'est une image dans l'image, une séquence de tournage et de scénario de film. Cependant, si l'on considère, il y avait quelque chose qui m'embêtait dans cette scène, au-delà de ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui semble un petit peu en trop. C'est-à-dire que si vous considérez le deuxième personnage, celui qui est à droite du fouetteur, qui, en langage familier, se rince l'œil, il semble bien sûr être un voyeur, ce qui convoque quelque chose, et je dirais même autre chose, bien sûr. On a une image ou une composition qui est très intrigante du fait qu'elle est l'absolu contraire ou l'inversion d'un grand classique de la peinture orientaliste, c'est-à-dire le tableau de la sempiternelle odalisque. Donc c'est quoi une odalisque? C'est une ou plusieurs, hein, mais on va dire une femme, brune, lascive, alanguie, toujours proposée enclose dans son écrin. Son écrin étant un décor générique de harem, avec bien sûr variations possibles autour du hammam, etc. Donc l'odalisque est donc une créature création qui est offerte aux voyageurs, voyeurs occidentaux. Et là, c'est bien sûr le négatif de cette image que nous avons, qui nous est proposée. La femme est occidentale, elle est blonde, elle est exposée dans un paysage désertique, et elle est jetée en pâture, cette fois-ci, aux autochtones, pour changer. Mais là, on voit bien qu'ils en font un très mauvais usage, et celui qui illustre justement le stéréotype occidental le plus extrême des relations hommes-femmes chez les Arabes. Mais là encore, je dirais que Hergé peut sortir un joker ou s'en sortir, parce que finalement, il n'a fait qu'emprunter une source préexistante, un scénario, puisque la scène et le film sont inspirés de The Sheik, 1921, un film de George Melford, qui est l'histoire d'une jeune femme anglaise enlevée et retenue dans le désert par un sheik. On devrait dire un shir, peu importe. Alors, à noter qu'ultérieurement, embarqué dans une autre aventure orientale, cette fois-ci c'est le Lotus Bleu, 1936, Tintin, cette fois-ci à Shanghai, ira au cinéma voir le film ici tourné dont il a perturbé le tournage. Et l'affiche que l'on pourra voir à cette occasion est très ressemblante de celle du sheik avec le portrait de Rudolf Valentino en sheik du désert. Donc, fantasme, bien sûr, mise en abîme, bien sûr aussi, image, mirage, fiction, dissimulation, leurre, trompe-l'œil et faux-semblant, les illusions de toutes sortes trament, fabriquent et stabilisent l'espace et les scénarios. Donc, les mirages de toute forme et de toute nature sont des moulins à vent que l'on peut vainement combattre et qui surtout vont légitimer et ponctuer le récit. En explorant les coulisses locales de la fabrique exogène de l'Orient, Hergé ne s'en tient pas là. Et la démonstration va se poursuivre, je dirais presque mécaniquement. Donc, dans Au pays de l'or noir, comme un pendant symétrique de la scène précédemment évoquée, un des Dupont, donc Bott, et ce, très franchement, le postérieur d'un personnage prosterné et vu de dos, qui ressemble à s'y méprendre, il est vrai, au fac-similé du traditionnel mahométan en prière dans le désert. Donc là, je vous ai mis une carte postale de cette figure classique, elle aussi, du mahométan en prière, notamment dans le désert, pardon, qui est répandue dans l'imaginaire orientaliste aussi, et qu'on va trouver fréquemment, en particulier sur les cartes postales du début du XXe siècle, et notamment, là, c'est dans un cadre égyptien, comme vous pouvez évidemment le constater. D'accord. Donc, voilà la scène. Mais évidemment, pour quelle raison cette scène? Quel est le motif de cette violence qui est tant physique que symbolique? Et là, on a le texte qui nous dit « Excusez-moi si je vous demande pardon, je vous avais pris pour un mirage ». Oui, il s'agit d'un fait exprès et l'acte est délibéré. Mais il s'agissait pour Dupont, l'un, de démontrer à Dupont l'autre que la scène était irréelle. Un mirage de plus, mon pauvre vieux, ça se voit au premier coup d'œil. N'était-il pas ce tableau trop conforme à l'image d'une image, donc à l'évidence probable d'un mirage? Un mirage, tiens, je croyais qu'on les avait supprimés. Et un petit peu plus loin, et encore un, décidément, ils exagèrent. Alors on peut se poser la question, à qui est véritablement destiné le coup de pied catapultueux de Dupont, excédé d'être sans cesse berné? À Laurent, à une image répétitive et éculée, au mirage perpétuel et démultiplié. Donc là, ça pose, je crois, une question qui a été soulevée hier par Jean-François Stazac, qui est celle de l'ironie. Doit-on rire? Quand? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on peut encore rire de cette scène? Etc. Telle est la subtilité et la perversité d'Hergé. On ne sait quelle est la réponse, et si réponse il y a, alors même que la question est pourtant si lancinante. Toutefois, Hergé, faiseur d'images, nous montre en image et par l'image le pouvoir et les limites de celle-ci. C'est-à-dire qu'un seul coup de pied, tant bien même vigoureux et si symboliquement bien ajusté soit-il, n'aura pas raison du mirage oriental, de ses doutes et de ses troubles. Dès le premier album des aventures orientales de Tintin, donc Les cigares du pharaon, vous avez l'image aussi, Tintin tombe dans les panneaux, mais aussi pourtant sur un panneau d'avertissement. Attention, mirage dangereux. Hergé prévient sa créature et le lecteur. En nul autre contrée du monde, les illusions ne sont si fréquentes, si denses, si diverses et si pernicieuses qu'en Orient, que celui-ci soit d'ailleurs égyptien, arabique ou maghrébin. Si l'Orient est l'espace supposé de prédilection, sinon d'origine des mirages et les distille, ces voyageurs narrateurs, et Tintin n'y manquera pas, nous l'avons vu, produisent des images comme autant de parades pour arrimer ce décor univers. Il appartient peut-être au visiteur leurré, mais cependant hypnotisé et fasciné, de lui opposer des images. Cependant, il n'y aura point de substitution. Mais l'Orient va se faire la somme du brouillage et de la mêlée d'images et de mirages, cumulés, fondus, confus et confondus. Alors si Hergé n'est peut-être pas dupe de ces images-mirages, de ces rimages, comme pourraient dire les Dupont, volontiers dyslexiques, Tintin, lui, va s'en accommoder. Et je dirais même qu'il s'en délecte avec complaisance, puisqu'elles constituent son univers. Ne sont-elles pas le sel et le miel de ses aventures ? Créature imaginaire, Tintin est ici en osmose idéale dans un univers symbiotique de rêves, si argumenté, documenté et référé soit-il. L'avertissement d'Hergé, attention, mirage dangereux, n'était pas une mise en garde, mais je pense une promesse. L'avancée à tâtons dans un palais des miroirs est déjà un jeu. Tintin n'est pas si sot qu'il croit chercher une quelconque vérité via une quelconque apparence. Tintin n'est pas, à l'instar de Dupont, un pourfendeur de mirages. Lui-même participe, comme nous l'avons vu, à en façonner. La véritable aventure est bien d'aller de l'heure en l'heure pour les recenser, les éprouver et les traverser, soit en faire et en vivre l'expérience, et à l'occasion en provoquer l'alchimie. Tintin n'est certes pas un écrivain voyageur, mais un reporter, et surtout un héros. C'est à ce titre qu'il arpente le monde et qu'il en infiltre les yeux. Je pense qu'il est aussi un touriste, mais ce serait une autre histoire encore. Cependant, il arrive aussi que ce soit les autres qui jouent l'intrusion, cette fois-ci en son territoire, chez lui. Donc, dans Coq en stock, Tintin et Haddock, de retour d'une soirée au cinéma, ont la mauvaise surprise de trouver le jeune Abdallah, donc fils de l'émir du Khemed, sa mauvaise éducation, son insolence et sa nombreuse suite, soit une tribu d'envahisseurs installée dans le grand salon à Moulinsart. Ayant repoussé les meubles sur les côtés, les Arabes, tout droit venus du Khemed, ont fait place nette afin de déployer leur étrangeté, leurs mœurs et modes de vie sans concession et leurs irréductibles us et coutumes. Une tente, demeure dans la demeure, a été édifiée. Il ne reste du grand salon, démantibulé dans sa logique, déstructuré, que son volume initial et une sorte de bric-à-brac hétéroclite en relégation. Le salon a été soumis à refondation, un décor a été bâti. En nouveau maître iconoclaste des lieux, les personnages, peu amènes, font face à l'irruption de Haddock dans ce qui constitue désormais leur espace. Cependant, on peut relativiser la portée de cette image, de cette première lecture ou première impression, en confrontant la disposition des décors, personnages et objets, à celle de Tintin dans la Médina de Bagar, que nous avons déjà vue. Ce sont désormais les Arabes qui ont investi les lieux et le centre du tableau. Mais, ils y sont statiques et n'ont repoussé sur les côtés que le mobilier et les accessoires. Ne sachant être même qu'avec tout leur fourbi, ils ne parviennent finalement à occuper qu'un espace, celui où ils emménagent. Ils ont seulement pris la place des meubles et se sont d'ailleurs entassés dans une case unique de l'album. Leur installation et leur action, limitées et temporaires, ne sont que des succès d'années. Séjournant dans le salon, ils y sont en somme cantonnés et neutralisés. Alors peut-être comme un remake, si vous voulez, de cette scène dans le monde du réel et des relations internationales, on peut bien sûr songer, je vois que certains rient déjà, à la visite officielle de feu le président Muammar Kadhafi à Paris en décembre 2007 et à l'imbroglio diplomatico, protocolaire et politique lié à son existence préalable. L'installation d'une tente bédouine sur la pelouse de l'hôtel Marigny, donc la résidence des hôtes étrangers de la France, pour y recevoir ses invités et interlocuteurs. Nicolas Sarkozy, qui avait eu les honneurs de la tente lors de son séjour en Libye quelques mois avant, en juillet 2007, refuse ici catégoriquement de s'y rendre. L'Élysée oppose une fin de non-recevoir. Je cite « Le président va sous la tente à Tripoli, mais à Paris, il reçoit chez lui. Leur installation baroque, finalement, n'est que le reflet de leur inadaptabilité et de leur incapacité à s'extraire de leur habitat, un habitat comme phénotypique. Que l'on ne s'y trompe pas, donc. Malgré leur mine patibulaire, n'ayez pas peur, les Arabes ne sont pas perturbants et menaçants. Ils sont d'ailleurs venus en quémandeurs et en implorant. Ils ont besoin de Tintin et celui-ci se fera de fait un devoir de les tirer d'affaire et de déjouer par là le sort qui les retient à Moulinsart. Donc sur le mode de la détermination et de l'incommunicabilité des étrangers distants, sont exposés les face-à-face du songène et de l'envahissement domestique, le face-à-face de l'hôte colonisateur et de l'hôte colonisé, et le volte-face de ce dernier. Les Arabes du Khemed campent à double titre, tant dans leur rôle que dans le grand salon, où ils opèrent en fait une dénaturation des lieux. Arroseur arrosé, invité invitant, Tintin, habitué à être partout chez lui dans le monde des autres, et en son repère même de Moulinsart, confrontée au déroutant chamboulement de l'intrusion invasive d'autrui, choc de type postcolonial, qui le déterminera, alambic du scénario oblige, à quitter Moulinsart et à s'externaliser vers d'autres contrées et de nouvelles aventures, au Remède notamment. Voilà.